Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, en ce jour de l'Ascension, 40 jours après Pâques, nous voici prêts à contempler le Seigneur qui s'élève. Mais il nous faut bien entendu contempler aussi les conséquences de cette élévation au ciel. C'est ce que je vous propose dans les deux parties de ma courte homélie. Tout d'abord, qu'est-ce que l'Ascension ? Que s'est-il passé ? Un fait, le Seigneur retourne au ciel. En quelque sorte, figurez-vous, cela n'a rien d'extraordinaire. Le Seigneur est Dieu, il est du ciel, il l'a toujours été, il y retourne, il y a en quelque chose rien que de très normal. Mais voilà, saint Paul nous l'avait dit, si il est monté, c'est parce qu'il était descendu. Et alors que nous contemplons le retour naturel du Seigneur au ciel, nous rendons grâce parce qu'il est descendu parmi nous. Son ascension nous prouve qu'il était descendu, qu'il s'était incarné parmi nous. Le grand secret que seuls les chrétiens de tous les croyants du monde et des temps connaissent, la venue de Dieu dans la chair. Alors voilà, il nous a fallu 40 jours et pas moins. Pourquoi 40 jours ? Pourquoi, me direz-vous, le Seigneur n'est-il pas tout simplement monté au ciel après sa résurrection ou juste à sa résurrection ? Eh bien, parce qu'il ne nous fallait pas moins de 40 jours, il n'en fallait pas moins pour les apôtres, pour se persuader de cette nouvelle extraordinaire de la résurrection du Christ. C'est ce que nous avons fait 40 jours durant, mes bien chers frères, nous avons médité la résurrection, les différentes apparitions qui nous assurent que le Seigneur était bien là, dans son corps, et qu'il était ressuscité. Mais voilà, il y a comme un testament qui est laissé au moment de cette ascension vers le ciel, il y a les paroles du Christ et celles de l'ange qui les poursuit. Les paroles du Christ sont très simples. Les dernières paroles que l'on dit avant de quitter quelqu'un sont des paroles essentielles. Et les paroles que le Seigneur va dire à ses apôtres, c'est la mission. Il nous faut annoncer le Christ. Ce n'est pas compliqué en quelque sorte d'être chrétien. C'est tout simplement d'annoncer que le Seigneur est venu dans la chair, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité et que nous sommes sauvés. Voilà ce que nous avons à dire et annoncer sans cesse, partout et toujours, jusqu'à la fin du monde. Nous sommes dans les derniers temps, vous le savez. Ces derniers temps sont les temps de l'Esprit-Saint. Ils datent de cette Pentecôte que nous attendons maintenant dans 10 jours, jusqu'à la fin du monde. Mais voilà, il y a plus aujourd'hui. Il y a un message qui nous dit, tout à fait paradoxalement, pourquoi regardez-vous vers le ciel ? Car celui qui est parti, il reviendra de la même manière. Alors c'est contradictoire, puisqu'il semble qu'on nous dise « ne regardez pas vers le ciel ». Mais puisque justement il est parti là et qu'il va revenir comme ça, il me faudrait regarder vers le ciel. Guettez celui qui revient. Ce paradoxe est celui de la vie chrétienne, que l'on pourrait résumer simplement « un chrétien à la tête au ciel, mais les pieds sur terre ». Et oui, il nous faut à la fois vivre d'une vision surnaturelle du monde, c'est-à-dire le regarder d'en haut, regarder, contempler les cieux ouverts, si ça vous est donné comme une grâce, c'est-à-dire voir petit à petit le monde être assumé en Dieu jusqu'à la fin. Et en même temps, il nous faut avoir les pieds bien sur terre. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes. Et peut-être le savez-vous, saint Ignace de Loyola, lorsqu'il fonda sa compagnie, à ses tout débuts, par des vœux qu'il prononça avec ses compagnons au martyrium de Montmartre, à Paris, eh bien, il fit un double vœu, en fait. On connaît le deuxième. Le premier, on l'a oublié. Le vœu essentiel, le vœu premier, c'était d'aller à Jérusalem. Et figurez-vous, alors je vous le dis tout de suite parce que je l'élimine, le deuxième vœu, c'était au cas où ça ne marcherait pas, où ça serait impossible, saint Ignace était un homme pratique, eh bien, accessoirement, alors, il se rendrait à Rome pour se mettre au service du pape. Alors, il n'a jamais pu aller à Jérusalem parce qu'il n'a jamais dépassé Venise. La première année, il y avait la peste, et la deuxième, il y avait la guerre. Alors, il s'est dit que, finalement, il fallait aller à Rome. Ça a plutôt bien marché. L'Esprit-Saint l'attendait là. Mais n'oublions pas son premier vœu qui était hautement spirituel, aller à Jérusalem, et pourquoi ? Pour contempler la pierre d'où le Seigneur s'était levé. C'est-à-dire que pour éviter que Dieu soit une idée, soit une transmission fumeuse, il voulut voir l'endroit d'où le ciel avait quitté la terre, il voulut pouvoir voir et toucher cette pierre d'où le Seigneur était parti. Il nous faut, nous aussi, mes bien chers frères, être bien à nos affaires, bien aux choses de ce monde, pour regarder le ciel, c'est-à-dire ne pas le regarder benoîtement, mais le regarder avec toute la conscience de la responsabilité que nous portons en ce monde et que nous dirigeons vers Dieu. Voilà ce qui s'est passé au jour de l'Ascension. Les apôtres bouche bée ont vu le Seigneur s'élever. Une dernière fois, s'il était besoin, il leur a prouvé que c'est spirituellement qu'il était venu accomplir son œuvre. Mais quelles en sont les conséquences ? Il me semble qu'il y en a deux. C'est la question du corps du Seigneur et la question de la force de l'Esprit-Saint qui vient. Tout d'abord, la question du corps du Seigneur. L'extraordinaire bonne nouvelle de ce jour, mes bien chers frères, c'est que si je vous ai dit que, après tout, il était normal que le Seigneur montât au ciel, car il était du ciel, ce qui est totalement extraordinaire dans cette ascension, c'est qu'il y est monté avec son corps. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'ont cru les éonistes et quelques platoniciens égarés des premiers siècles, le Seigneur n'est pas venu faire semblant, prendre un corps et puis repartir sans celui-ci, le laissant à son pauvre sort, c'est-à-dire parmi nous. Pas du tout. Le Seigneur est venu sanctifier la nature humaine au point de la revivifier dans sa déréliction, dans le péché originel qu'il avait touché. Il l'a sanctifié, il l'a restauré et ce corps glorieux est remonté au ciel. Il y a, mes bien chers frères, dans la Trinité Sainte, dans l'échange incessant d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un corps comme le mien et le vôtre. C'est ça la nouvelle totalement extraordinaire de l'Ascension qui a dû laisser les apôtres défaits complètement. Il y a maintenant un corps humain dans la Trinité Sainte. Alors oui, bien sûr, ce corps, c'est le corps mystique de l'Église qui reste encore sur terre. Vous le savez, l'Église est composée de trois états, sa tête qui est au ciel, son chef, caput, capitis, pour quelques restes de latin. Eh bien, la tête est déjà au ciel. Et là où la tête est passée, le reste du corps va passer. Ce reste du corps, c'est bien sûr l'Église triomphante qui est déjà avec le Christ dans sa tête. C'est ensuite l'Église souffrante, celle du purgatoire, qui est en train de passer vers le ciel. Et puis c'est l'Église militante, nous qui avons été christifiés, identifiés au Christ au point d'appartenir à son corps, et c'est bien parce que lui est monté que nous aussi nous monterons. Nous n'avons pas d'autre solution que de nous identifier à lui pour monter au ciel, car mes bien chers frères, vous le savez, par nos simples forces et notre seule bonne volonté, nous ne pourrions pas aller bien haut. Voilà la bonne nouvelle de ce jour. Le Seigneur est entré triomphant dans les cieux, nous entraînant avec lui, et nous finissons dans notre corps et notre vie d'être sanctifiés comme il l'a été. Alors oui, la bonne nouvelle, c'est que l'Esprit Saint vient, son royaume est totalement spirituel. Vous avez vu que les apôtres, jusqu'au dernier moment, n'ont pas encore complètement compris comment pourrions-nous les accuser, nous qui sommes sans cesse en train d'essayer d'attraper le ciel et de comprendre ce que veut dire le règne de Dieu. Ce règne qui était tenu jusqu'à présent par la loi est maintenant agrégé au Christ par l'Esprit Saint qui nous unit à lui. Tout ce que nous faisons de bon vient de l'Esprit de Dieu qui nous est laissé. En quelque sorte, il nous a quittés dans son corps pour être certain que nous ne vivrions plus que de notre foi. Et c'est ça la mission des chrétiens, annoncer la foi. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. c'est-à-dire celui qui adhérera spirituellement à Dieu réellement présent par son esprit, sera sauvé s'il entre dans l'Église par le baptême. Ce n'est pas un parallèle exact. Celui qui refusera de croire sera condamné. Avant de condamner qui que ce soit, mes bien chers frères, demandons-nous ce que veut dire cette assertion « refuser de croire ». Combien de gens que nous croisons ne refusent pas de croire, mais tout simplement n'ont pas été catéchisés, n'ont pas reçu l'annonce de la bonne nouvelle de chrétiens flamboyants et heureux qui leur disent que le Christ est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et que nous sommes sauvés. Ce catéchisme, il nous faut l'annoncer avec force. Et pour terminer sur une note plus anecdotique, je vous raconte une petite histoire qui m'est advenue. Totalement intéressante de ce point de vue, autour de nous vivent un nombre incroyable de païens à qui l'Évangile n'a jamais été annoncé. Je revenais d'un petit voyage, une mission, avec deux autres prêtres. Je n'étais certes pas en soutane, mais tout de même bien habillé comme prêtre et bien identifiable. Nous étions trois. Nous passions la frontière aérienne et le douanier arrête le premier d'entre nous, voyant que nous étions habillés bizarrement. Il s'est donc dit, voilà donc des gens bizarres qui viennent d'un pays que je ne connais pas. Alors il nous arrête, il nous dit, ouvrez vos bagages. Et il nous demande, parlez-vous français? Alors nous sourions. Oui, c'était à l'aéroport de Roissy. Et donc, oui, nous sommes français, nous sommes prêtres du diocèse de Paris. Et nous revenons dans notre paroisse. Bon, il a mis 5 minutes avant de comprendre que vraiment nous étions français. Parlez-vous français? Une deuxième fois. Mais oui, je crois. Il était tellement interloqué par nos habits qu'il n'a pas pu nous reconnaître comme des Français normaux. Alors nous rions encore, nous montons dans un taxi, nous étions trois, et nous partageons notre joie et notre amusement avec le chauffeur de taxi, un homme de 30 ans, d'une... pas bête du tout. Il nous dit qu'on lui dit qu'on va à telle église. Alors il se dit, ah, j'aime bien les églises, nous dit-il. Ah, on se dit enfin, quelqu'un quand même à qui on peut parler. J'aime bien les églises, j'ai deux enfants, je les emmène au Mont-Saint-Michel pour visiter les voûtes, etc. C'est très beau, l'architecture, etc. Très bien, bon, parfait. Et nous finissons par lui dire, mais nous, nous habitons dans l'église, nous sommes prêtres. Il n'avait toujours pas compris, lui non plus. Il nous dit, prêtre, mais prêtre dans l'église? Et oui. Prêtre dans l'Église, mes bien chers frères, il y a autour de nous un nombre incroyable de païens qui n'attendent qu'une chose, c'est que nous leur révélions la profonde joie de savoir qu'ils sont sauvés. Ils n'en savent rien. Alors, mes bien chers frères, méditez, regardez le Christ monter au ciel, soyez assurés de la réalité de ce monde spirituel qui vient. Annoncez-le avec force et avec joie, afin que tous ne pourrissent pas par terre, mais vraiment puissent s'élever avec le Seigneur jusqu'au ciel. Ainsi soit-il.